La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, Camille Lefèvre voyage dans les mémoires des femmes et des hommes du Niger. Historienne de l'Afrique, elle cherche les traces laissées par les pays du Sahara et du Sahel, les traces d'avant la colonisation. Camille Lefèvre cherche des archives et elle les trouve. Parce qu'ils sont nombreux à avoir écrit en arabe, en français, parce qu'ils sont nombreux à avoir raconté en langues africaines ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu au tout début du XXe siècle. C'est-à-dire ce moment particulier où tout a basculé, ce moment où les Français sont arrivés pour les occuper. Bonjour Camille Lefèvre et bienvenue dans la Marche du Monde.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'Afrique et grâce à vos recherches de terrain, nous allons remonter avec vous dans l'histoire et dans la géographie du sultanat du Damagaram, un état dont la ville de Zinder, dans l'actuel Niger, était la place forte. Et nous sommes guidés par votre livre publié aux éditions Fayard, « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale ». C'est un livre foisonnant où de multiples voix s'expriment pour nous raconter chacun de leur point de vue comment les Français ont imposé leur domination. Et c'est ce que je trouve fascinant dans votre travail d'historienne. C'est bien cette obstination que vous avez à chercher de nouvelles sources, à faire entendre toutes les voix qui se croisent dans cet immense espace qui correspond aujourd'hui au Niger. Qui sont les personnages de votre livre, Camille Lefèvre, histoire qu'on plante un peu le décor?
Alors, toute l'idée du livre était justement de reconstituer un peu cette société du Sahara et du Sahel au moment où les colonisateurs français arrivent, en essayant de voir toutes les strates de cette société, parce que souvent, on ne s'intéresse qu'aux chefs, qu'aux sultans, qu'aux personnalités les plus importantes. Et là, l'idée, c'était d'essayer de regarder un peu tout le monde. Donc, il y a évidemment des sultans, des sarkis, mais il y a aussi des esclaves, des eunuques, il y a aussi des femmes en relation avec les Européens ou pas, et j'essaye de retrouver un peu cette diversité. Il y a aussi bien sûr les tirailleurs sénégalais.
Et donc le sarki, vous avez lâché le mot, hein, ce qui signifie sultan, naoussa. Dans sa cour, il y a des esclaves de cour, des eunuques, des femmes, des lettrés arabes qui écrivent beaucoup également. Mais ce n'est pas une société qui est dominée encore par la religion musulmane. Néanmoins, c'est une société africaine où l'esclavage est central. Camille Lefèvre.
Alors le Damagaram à cette époque, c'est donc effectivement un état, un sultanat musulman, au sens où les élites lettrées de la cour sont musulmans, mais où une large majorité de la population rurale, des paysans, sont encore païens. Donc où se mêle à la fois l'islam, un islam ancien présent dans la région depuis plusieurs siècles, avec des grands lettrés qui échangent avec le Caire ou avec la Mecque, et en même temps une population encore, ce qu'on pourrait appeler, ou ce qui est souvent appelé animiste.
Et dans ce Damagaram d'avant les Français, certains pointent leur nez, hein, on les appelle des explorateurs, vous avez cité les tirailleurs, certains de la nationalité française, mais ils ne sont pas forcément sénégalais, on le sait bien. Il y a donc des militaires, il y a des espions, c'est une sorte de société française où la conquête de l'Afrique est au programme avec un projet encore un peu flou. En tout cas, la question à l'époque, c'est de tracer des frontières, décider de très loin, décider depuis Paris, depuis Londres, puisqu'il faut quand même conquérir du territoire. Il y a quand même cette idée de venir s'implanter, de prendre place en Afrique.
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du point de vue des pays européens, il y a une forme de concurrence entre les différents États qui souhaitent s'implanter en Afrique sans encore forcément savoir comment ils vont s'implanter et quelle forme prendra cette implantation. Mais ce qui a pour conséquence que les Britanniques comme les Français envoient sur place des missions avec le but de nouer des liens avec des autorités ou des États locaux, parce que ces liens pourront ensuite être utilisés pour négocier l'influence française ou l'influence britannique dans ces régions. Et donc un certain nombre d'hommes, de Français ou de Britanniques, arrivent dans cette région sous couvert de l'exploration, qui a été un mouvement scientifique plutôt de la période précédente. Ils disent qu'ils arrivent pour faire des recherches scientifiques ou de manière pacifique, mais en réalité, leur comportement est très différent.
Alors voilà, c'est intéressant parce qu'ils s'annoncent comme des explorateurs, donc des missions pacifiques, hein, vous l'avez précisé, mais en même temps, vous écrivez dans votre livre que ces missions deviennent des expéditions de reconnaissance. Pourquoi ?
Parce que dans leur manière de se déplacer, dans leur attitude vis-à-vis de ces populations, elles ne sont plus du tout comme les explorations de la période précédente, comme quelqu'un comme Heinrich Barth, qui a passé 5 ans dans la région et recueilli des centaines de données. Là, on est vraiment dans un contexte où, d'abord, elles sont militarisées, au sens où le voyageur européen est accompagné, en général, d'une troupe armée, avec des armes modernes, et ils ont une attitude qui est aussi celle de s'imposer par la force. Notamment, ils ne suivent plus les itinéraires ou les pratiques de voyage locales, mais au contraire s'imposent et veulent à chaque fois passer en force dans ces régions.
Alors justement, Camille Lefebvre, vous avez établi cette date du 7 avril 1898 à Korgol pour le premier contact entre les représentants du Sarki, hein, du sultan, du Damagaram, et les membres de l'expédition du capitaine Kazmajou. Il est d'ailleurs le fondateur du comité de l'Afrique française. Il arrive effectivement avec une escorte de 40 tirailleurs. Ces gars sont plutôt bambara et malinqués. Mais lorsqu'il arrive, ce fameux capitaine Kazmajou, au palais du sultan, il déclare: nous ne nous déchausserons sous aucun prétexte. Excusez-moi, ça me fait hurler de rire parce que je trouve que son attitude est à la fois grossière, il n'a pas de savoir-vivre, il ne veut pas se déchausser, mais aussi grotesque. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, au fond, cette attitude ?
Elle est exactement le signe du changement profond de la manière de l'attitude des Européens dans cette région. Les explorateurs de la période d'avant venaient avec respect, demandaient l'autorisation d'entrer, suivaient les règles qui étaient celles de la politesse dans ces régions-là, et notamment respectaient les souverains en suivant leur protocole. Et là, c'est justement une posture affirmée de Kazmajou de ne pas respecter le protocole du palais et de refuser de faire ce que les gens de la cour lui demandent. Et ce qui est vu par la cour, et les gens à Zinder s'en souviennent encore aujourd'hui, ce qui est vu comme une insulte, dire « j'entrerai dans votre palais avec mes chaussures », c'est vraiment une manière de montrer son irrespect pour le souverain. Et donc, effectivement, c'est un moment très important symboliquement.
Alors néanmoins, il va obtenir, ce capitaine Kazmajou, l'accord du sultan de se déplacer librement. Il va obtenir l'accord du sultan pour commercer. Et pourtant, la décision de le tuer, hein, lui et son interprète Olive, va s'imposer au sultan. Pourquoi ce choix, à votre avis ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour suivre cette histoire, jusqu'à maintenant, on avait énormément d'archives coloniales, puisque comme c'était le premier assassinat d'un Français dans cette région-là, il y a eu une grosse enquête coloniale. Mais ce que j'ai pu trouver aussi, c'est qu'il y avait des versions écrites dans la région qui racontaient aussi comment cet assassinat avait eu lieu. Et on a donc une version par un lettré arabe, écrite dans les années 1960, donc bien plus tard. Et on a aussi une version en kanouri et en haoussa, écrite par un pèlerin de la région de Zinder, qui, au Caire, en 1904, a rencontré un linguiste allemand qui s'est intéressé aux histoires qu'il avait à raconter dans sa propre langue. Et donc là, on a des versions de l'intérieur du palais de Zinder qui racontent comment les lettrés, ou comment les commerçants, ou comment les gens qui étaient présents ont pu voir cette histoire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit un tableau beaucoup plus complexe que celui que montraient les sources européennes, au sens où on voit qu'il y a eu un débat très important à la cour et des factions qui se sont opposées. Certains étaient pour l'assassinat, d'autres étaient contre. Il y a eu vraiment une négociation et finalement le sultan a décidé de tuer Kazmajou. On pense aujourd'hui principalement parce qu'il a très peur que, comme Kazmajou transporte des armes et des biens matériels, notamment des liquidités. S'il continue sa route vers l'Est, il va être pris par Rabi, le plus grand ennemi du sultan du Damagaram, et Rabi récupérera ses armes et ses biens pour ensuite venir attaquer Zinder.
Alors du côté justement de la bibliothèque coloniale, hein, c'est un petit peu tous les écrits, hein, qui ont pu être archivés de cette période. En quoi l'assassinat du capitaine Kazmajou et de son interprète Olive et fondateur du mythe français de la conquête militaire de l'Afrique, Camille Lefebvre.
Il y a vraiment l'idée à cette époque-là que quand du sang français a été versé dans une région, cela donne en quelque sorte des droits à la France sur cette région. Il y a l'idée que comme un Français y serait mort, il faudrait aller venger sa mort et donc ensuite aller sur place. Il y a cette idée de l'importance du parcours et de la présence des Européens et de comment elle va, et surtout là, dans ce cas-là, en plus, il est mort sur place, donnerait en quelque sorte des droits à la France pour ensuite aller dans la région.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niveland.
Nous sommes à Zinder, au Niger, à l'aube de l'occupation coloniale du sultanat du Damagaram, à travers les récits des Zindérois eux-mêmes. Pour nous raconter cette histoire, Camille Lefebvre, Mala Abdou et Laminou Issaka Bra ont traduit en français une archive sonore enregistrée en 1972 par un historien américain, Stephen Bayer. Écoutez cette archive, elle est en langue Haoussa. Il s'agit du récit du plus ancien commerçant de la ville, Mahaman Kané. Il était un enfant au moment de l'arrivée des colonisateurs français et il a raconté son histoire de Zinder pendant les premières années de la colonisation. Camille Lefebvre, avant d'écouter la version française du récit de Mahaman Kané, interprété par le grand comédien nigérien Nuru Wallam, que je remercie infiniment pour sa participation, j'aimerais que l'on explique à nos auditeurs de quelle façon commence l'occupation de la ville de Zinder en juillet 1899 par les troupes de la mission Voulé et Chanoine.
Le projet de la France dans ces régions du Sahara et du Sahel prend corps quelques mois plus tôt quand les autorités françaises décident d'envoyer plusieurs missions, qu'ils appellent des missions d'exploration, mais qui sont donc des expéditions militaires, pour créer en quelque sorte l'unité territoriale des possessions françaises en Afrique, en reliant à la fois les possessions algériennes, les possessions qui sont au Sénégal et celles qui sont du côté de ce qui est aujourd'hui le Gabon. Et donc ces trois missions sont censées se retrouver sur les bords du lac Tchad et l'une d'elles traverse donc d'ouest en est de la région, et c'est la tristement célèbre mission Voulé et Chanoine qui pratiquera des massacres terribles dans toute la région de l'ouest nigérien, et finalement jusqu'à ce que des tirailleurs de la mission elle-même se rebellent contre leur chef et contre leur massacre et tuent les chefs de mission. À partir de ce moment-là, la mission est reprise en main par un autre officier français qui avait été envoyé pour l'arrêter. Et c'est cette troupe-là qui vient de commettre des massacres, qui est composée de près de 1800 hommes et femmes, qui arrive et qui se dirige sur Zinder. Et là, les officiers français disent aux tirailleurs qu'ils ont le droit de se, en quelque sorte, nourrir sur la bête, qu'ils ont le droit de piller Zinder pour venger le capitaine Casmajou.
Et donc, une colonne militaire qui va s'attaquer au pouvoir suprême, celui du sultan, qui va l'assassiner pour finalement remettre à sa place un autre sultan et ensuite plus tard s'attaquer à son entourage.
Effectivement, une fois qu'ils arrivent sur place, toute la ville a fui, y compris le sultan. Et ils vont d'abord pourchasser le sultan dans toute la région jusqu'à le tuer, avec l'idée que ça venge l'assassinat du capitaine Casmajou, s'installer sur place en mettant à sa place son frère cadet, Amadou Danbassa, qui est le nouveau sultan. Et ils vont laisser pendant quelques années ce nouveau sultan très jeune régner un peu comme il le veut, jusqu'au moment où rapidement ils se rendent compte qu'en fait ils ont complètement perdu le contrôle de la ville de Zinder et que le sultan notamment continue à piller et que ses plus proches sont en train de commettre des razzias d'esclaves sous couvert de la France et de piller la région.
Et en punissant le général Souleydanbo, proche du sultan, les militaires français entrent pour la première fois depuis le début de leur occupation dans une épreuve de force avec ce sultan et sa cour. Et c'est ce que raconte ce premier extrait du récit de Mahamane Kané, interprété par Nourou Walam.
Avec sa grosse moustache sous les dandabos.
C'est un djoula ?
Non, c'est pas un djoula. 200 personnes travaillaient dans son domaine, depuis la mare jusqu'à la montagne.
Est-ce que c'est un riche ?
Non, c'est pas un riche.
Est-ce un courtisan, membre de la cour ?
Ah, c'est un membre de la cour, celle qui chanoua. C'est celui dont les Blancs ont accroché la tête dans le marché qui a périclité depuis lors.
C'est celui qui a été tué ?
Lui qui faisait des éloges.
Le père de l'épouse de Baba Louché.
C'est ça, son fils Ramagaja avait hérité du terrain, mais Malayaro l'a fait confisquer et c'est devenu le champ de Malayaro. Tout le monde venait se servir car Souleydanbo est mort. L'invincible guerrier Gazagourou, le très brave Gabandouna, mari de Takoudi, Souleydanbo. Si le sultan dort à Dakoussa, lui y part en éclaireur à Wami. Sa moustache était touffue. Souleydanbo est debout, les yeux écarquillés, il se tenait devant le sultan en mode en scandant. Si tu me dis de trancher la tête de ce mécréant, je le ferai. Si tu me dis de trancher ce mécréant, rien ne peut me faire renoncer. Et le blanc pose la question. Qu'est-ce qu'il dit ? Il repose la question. Qu'est-ce qu'il dit ? Et l'interprète Alou dit « Non, il plaisante. » Et l'interprète Bambara traduit. Les soldats en tenue partout, les armes du Damagaram étaient positionnées et celles de l'administration aussi. Le sultan et le capitaine Lefebvre étaient sous la même tente et il fait son fameux cri de guerre avec son sabre pointé vers le capitaine avec sa moustache touffue. « Si tu me dis de trancher ce mécréant, je le ferai. »« Tu me dis de trancher ce mécréant, je le ferai. » Et le capitaine dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» En voyant le sabre brandi vers lui, et Alou répond. C'est une plaisanterie. Et l'interprète Bambara traduit au capitaine, voici ce qu'il dit. On le saisit avec force, on le déshabille. On ne lui laisse que son pantalon, on le ligote. Et il a été le premier prisonnier à Bari. Ils l'ont conduit en prison et l'ont attaché. Tôt le lendemain matin, jour du marché d'Olé, on l'a conduit au milieu de la place du marché. On l'a attaché solidement au pied de l'arbre. 14 soldats le conduisent à l'est du marché pour le fusiller et le décapiter. Sa tête sera plantée sur un pic au marché qui dès lors fut fermé pour toujours.
Le récit de l'exécution par les Français de Souleydanbo, l'un des généraux du sultan du Damagaram, dont la ville fortifiée est Zinder. Un état africain arrivé à son crépuscule, dont le basculement créé par la répression militaire française bouleverse tous les enjeux de pouvoir au palais Camille Lefebvre. Quelles sont les conséquences de l'exécution de Souleydanbo sur les rapports de force dans le sultanat ? Parce que c'est toute une société qui est bousculée à ce moment-là.
Jusque-là, au sein du palais de Zinder et au sein de la cour, on avait pensé que les Français étaient là qu'ils étaient certes forts, mais que visiblement ils n'avaient pas l'intention de changer la société et qu'ils allaient sûrement repartir puisqu'ils avaient l'air d'avoir d'autres intérêts vers l'Est. Et donc, on était dans une forme d'attentisme qui faisait qu'on pouvait continuer à agir de la même manière. Et donc, la cour n'avait pas encore senti la domination et l'occupation, les choses n'étaient pas encore transformées. Mais là, que le sultan laisse tuer l'un de ses plus proches et que les Français se sentent assez forts, alors qu'ils sont quand même très peu nombreux, hein, on parle entre 4 et 50 personnes au maximum, hein, dans une ville qui est de 20 000 habitants, se sentent assez forts et assez soutenus par le Sarki pour tuer l'un de ses plus proches, cela change complètement la configuration de la cour. Notamment parce que certains de ses autres proches, notamment un de ses eunuques, le Belama, mais aussi d'autres gens vont se dire « Mais si il a trahi un de ses plus proches conseillers, pourquoi il ne nous trahirait pas nous ?» Et donc, il commence à se détourner du sultan.
Et c'est ce que nous allons entendre dans le récit de Maman Kané, interprété par Nourou Alam, ou comment l'eunuque du sultan, le Belama Ousmane, l'un de ses plus proches conseillers, décide de se retourner contre lui.
Et ce fut l'origine de la chute du sultan Amadou. Ce fameux cri de guerre a été la cause de son arrestation. Et l'autre amena le papier à l'administration, et après l'autre qui est revenu voulait le renverser. Bien avant, il rapportait des informations au blanc sur lui. Balam avait passé 6 mois à Barik. Balam était un de ses hommes de confiance. C'est lui qui venait lui apporter tout ce qui se disait à Barik. Ils mangeaient avant ensemble tous les trois. Hein? Le Serki, Balam et Mamad, fils de Chetima. Les trois mangeaient ensemble.
C'était la complicité.
Oui, la complicité. C'est Balam qui allait à Barik. Cependant, il y avait le sabre de Moussa de Tanamari. Et le sultan Amadou dit: ce sabre est capable de trancher n'importe qui, quelle que soit son invincibilité. Quelle que soit l'invincibilité de la personne, ce sabre peut le trancher.
Où l'a-t-il eu?
On l'a ramené de Tanamari et on racontait que c'était le sabre de Moussa. D'ailleurs, tout le butin de guerre lui a été remis. Au sultan, quoi. Même les armes lui étaient remises, même les fusils de Rabat et à plus forte raison ceux de Tanamari. Ils étaient en train de manger avec Balama et Mamad, fils de Chetima, qui à l'époque était la risée des habitants de Damagaram qu'il appelait Maman Antamankoro, qui signifie esclave qui a grandi au palais, quoi. Mais maintenant, personne n'ose le dire en sa présence, hein, Maman du fils de Chetima. Amad brandit le fameux sabre et s'exclama: ce sabre tranchera toute personne, quelle que soit sa protection. Et Balam répond: dans ton règne et ta sagesse, nul métal sur terre n'a encore été créé par Dieu qui pourra m'atteindre, affirma Balam. Dans ton règne et ta sagesse, tu penses que ce sabre peut me trancher? Aucun métal ne peut pénétrer mon corps. Dans ton règne et dans ta sagesse, et si je te tranche avec ce sabre? Si tu me tues, ce n'est que ton esclave que tu as tué. Qui osera te demander de rendre compte, honorable chef? C'est juste ton esclave que tu auras tué, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu veux en échange au cas où il ne t'arrive rien? Je voudrais qu'on me donne Djuru, Gandegi. Et c'est à partir de là que naquit le chant de Balama. Maïkili qui aime Djuru, Nkanaso Kilinka et Kirki. Celui qui a le cheval blanc, méfie-toi de celui qui a le Djuru si tu veux que ton cheval blanc soit bon. Serki qui aïe Balama. Ah, leur mésentente débuta ce jour-là. Et il fut frappé avec le sabre, mais aucun résultat. C'est comme un coup porté au sol, quoi. Il prit le sabre et le jeta par terre. Et on lui a apporté le cheval de Kinchandi. Après cela, le capitaine dit: il y a des gens de Labzin qui se sont réunis dans une brousse à l'est en grand nombre. Le Serki Amadou doit partir lui-même au combat. Il demande: où est Balama? C'est toi qui iras, que l'on te fasse mon cri de guerre. Et il partit. Il a pris des fusils. Plusieurs milliers. Il a tué tous les Abzinawa et a rapporté plus de 1000 chameaux. Plus que ça même. Les chameaux ont été remis à Horinshaho, l'aigle blanc, le père de Nahum, pour les vendre. Il est devenu un intermédiaire d'Ilali. Il est devenu quelqu'un d'important. On ne sait pas combien de chameaux il a donné. Il y avait plus de 3000 chameaux. C'est la source de sa richesse. Il lui arrivait même de dire aux habitants de Tassawa qui le provoquaient: qui héberge le sultan du Damagaram si ce n'est moi? Même le cercle du Damagaram, c'est moi son hôte. À partir de là, c'est fini. C'est de là que ça a commencé. Et c'est à partir de là que les gens ont créé une mésentente entre Balama et le sultan. Les gens qui n'ont rien à faire et qui traînent, les gens qui sont revenus de Rabat et ceux d'Afounou, se sont alliés avec Balama et chantonnaient la chanson. Maïgishiri ki aïe maïgoro, unkanaso kitankaye kirki. Qui signifie: celui qui a le sel, méfie-toi de celui qui a les paniers de cola si tu veux que ta musique soit rentable.
À partir de là, c'est fini. Et c'est de là que ça a commencé. C'est le témoignage du commerçant Maman Kané, revisité par le comédien nigérien Nuhu Wallam. Un commerçant dont les propos ont été recueillis en 1972. Et c'est bien là la fin d'un monde que décrit celui qui était encore un enfant lorsque les Blancs sont arrivés à Zinder.
Ils ont créé une mésentente comme ça. Quand ils allaient à la chasse, ils n'allaient pas. Quand ils allaient à la chasse, ils n'allaient pas. Il a refusé de prendre part à la chasse. Il a refusé de partir à la chasse. Même avec la force, on peut le déchiqueter dès qu'il va sortir, commencer à crier les gens. Il refuse de prendre part à la chasse. Il refuse de prendre part à la chasse. Et ils ont dit, on va le tuer ici, ce bâtard. Fermez les portes pour qu'on le tue ici. Fermez les portes, on va le tuer, cet imbécile. Fermez les portails et tuons-le. Fermez les portes pour qu'on le tue.
Le blanc était là?
Le blanc était bien là. Fermez les portes pour qu'on tue ce bâtard. Nul ne connaît le nombre de personnes qui ont été tuées en présence du blanc. Même Sidi, son demi-frère, fut tué pendant que le blanc était là.
Le blanc était bien là quand on l'a tué?
Oui, même Sidi. Le nombre de personnes tuées en présence du blanc est incalculable. Sidi et son petit frère n'ont-ils pas tous été tués? Ils ont tous été tués à la présence du blanc. Et là aussi, ils ont décidé de fermer les portails pour tuer Balama. Et le voyou se leva, se dirigea vers notre porte de Zongo et cria « Ouvre !»« Quoi ? Moi, ouvre cette porte ! Tu vas sortir et moi, je vais être tué. Dégage d'ici, pauvre con !» lui répondit le gardien. C'est alors qu'il porta un coup de sabre sur la chaîne. Bam ! Il a ouvert la porte et est venu trouver le fèvre. Il a enlevé son pantalon d'abord et dit « Regarde comment suis-je. Ils m'ont coupé tous les organes génitaux. » Tu sais, il était marié à une Mairama, la fille de Serki Gotto, et il n'avait rien comme appareil génital. Il n'avait rien de tout ça. Oui, oui, alors qu'il était marié à une Mairama, une princesse. Ce sont eux qui m'ont fait ça, dit-il. Il était dépourvu d'appareil génital. Il se présenta chez le capitaine Lefebvre pour tout leur rapporter, en assurant qu'il ne peut retourner là-bas. Si je retourne, ils me tueront. Ils pourraient même me déchiqueter avec leurs dents sur ma trappe. Rien qu'avec la force brute, on me mettra en pièces. À partir de là, on lui construit une maison dans laquelle il a vécu 6 mois. 6 mois. Et après, le sultan Amadou fut arrêté car il n'avait pas arrêté de commérer et raconter tout ce qu'il voulait sur Amadou. Pendant la journée, on lui remettait les papiers à transmettre. Comme cela, il ne pouvait pas mourir. Il faisait le coursier durant les 6 mois entre le blanc et le sultan Amadou. Mais durant le jour seulement, hein, car il n'osait pas s'y rendre la nuit. La nuit, il n'osait pas entrer.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI, en langue Haoussa. Nous découvrons cette archive inédite de 1972, où le commerçant Maman Kané fait le récit de ce qu'il a vécu dans son enfance, le récit de la confrontation violente entre les militaires français, dirigés par le capitaine Lefebvre, et la cour du sultan du Damagaram à Zinder. Et c'est grâce à vous, Camille Lefebvre, que nous faisons ce voyage dans l'histoire et aussi dans la géographie. C'est très important, le terrain, quand on veut comprendre ce qui s'est passé et comment les gens l'ont vécu et comment ils le racontent. Revenons peut-être sur cette scène de crime que l'on vient d'entendre.
Alors, je voudrais commencer par dire que le capitaine Lefebvre n'est pas mon parent.
Oui, alors j'allais vous poser la question.
Malheureusement, le même nom que le méchant de cette
parlons
histoire.
Parlons bien, voilà. Donc ça, c'est
mais
fait.
Je tiens à préciser qu'aucun de mes ancêtres n'a été colonisateur et aucun n'a été au Niger. Et donc, c'est un nom de famille qui est très courant en France. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on vient d'entendre, on peut le compléter et on peut le regarder aussi à partir des archives coloniale. C'est-à-dire que la plupart des événements qui y sont décrits évidemment de manière complètement différente aussi dans les archives coloniales.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce qu'on vient d'entendre ?
Ce qui s'est passé, c'est donc que le Belama, qui était l'eunuque du sultan, donc son esclave, sa propriété, son bien, est devenu de plus en plus fort et de plus en plus puissant avec l'arrivée des militaires français, qui se sont appuyés sur lui, qui se sont bien entendus avec lui et qui l'ont favorisé, le laissant devenir de plus en plus riche, le laissant devenir de plus en plus important, jusqu'à un moment où celui-ci, bien qu'il soit toujours un esclave et une possession de son maître le sultan, se soit senti suffisamment fort pour provoquer son maître. D'abord en privé, lors de dîners privés qu'il avait avec lui, puis ensuite en public, en refusant de lui obéir, jusqu'au moment où le sultan a décidé de se retourner contre lui et de l'arrêter et de le mettre en prison. Mais là, le Belama a réussi à s'enfuir du palais et a immédiatement couru jusqu'au poste des militaires français. Et là, on a effectivement le même détail dans les archives françaises et dans les archives sonores en Haoussa. Il s'est effectivement mis nu devant le commandant de poste en lui disant « Regardez, ils m'ont déjà fait eunuque, ils m'ont déjà coupé mes parties génitales et maintenant, si vous me laissez repartir au palais, cette fois, ils vont me tuer. » Et les militaires français voient leur intérêt et décident de conserver avec lui ce personnage qui ne va plus donc vivre au palais, mais maintenant changer de côté et vivre au poste, mais continuer à être l'intermédiaire entre les colonisateurs français et le sultan.
Alors, pour que l'on comprenne bien quels sont les intérêts justement du Belama Ousmane, pourquoi va-t-il utiliser l'hostilité des Français à l'égard du sultan pour servir ses propres intérêts? Est-ce qu'il a l'espoir d'être affranchi en tant qu'esclave, par exemple?
Alors, je ne suis pas sûre que ça soit l'affranchissement qui le motive, mais peut-être plutôt un sentiment de vengeance. Il a donc été castré par le frère d'Amadou Danbassa, celui qui a été tué par les Français, Amadou Korendaga. Il a été ensuite, il a été castré à l'âge adulte en plus, ce qui était assez rare pour les eunuques et qui a certainement occasionné un grand nombre de souffrances. Et il s'allie au palais avec un certain nombre d'autres personnes qui ont elles aussi vécu la violence du sultan et de sa famille, qui ont été eux aussi soit battus publiquement, soit humiliés, soit un de leurs parents a été tué. Et ce groupe de mécontents, pour la plupart d'origine servile, vont s'allier contre le sultan et décider de se retourner contre lui.
Donc on voit bien comment l'arrivée des Français dans le sultanat du Damagaram vient totalement bouleverser les rapports de force au sein de la cour. Et c'est ainsi que les militaires français vont finir par décider d'arrêter le sultan et sa cour.
6 mois se sont écoulés. Et c'est après que le commandant Gadel est arrivé. Le commandant est arrivé un vendredi, le fameux dernier vendredi, comme l'appelaient les habitants du Damagaram. Donc, on a adressé une convocation au sultan pour lui annoncer l'arrivée du grand commandant. Le commandant de bataillon, c'est lui le grand. Dès l'aube, le sultan enfourcha son cheval. Maintenant, les griots ont commencé à chanter. « Qu'est-ce qu'ils pourront faire contre toi? 1000 Europe n'a qu'à venir. Ils mentent, ces menteurs. » À son arrivée, on a dit à ses cavaliers de se mettre là. Tu sais, le boy du capitaine Lefebvre était Ougouma, le fils de Kiski. On était là quand on leur a ordonné de partir.
Les cavaliers?
Non, tous les grands. Des cavaliers de la porte de notre marché jusqu'à la porte du palais, partout. Certains ne savaient même pas ce qui se passait. Une seule personne peut être suivie de plus de 1000 cavaliers. Après, tous les chefs sont partis au galop. Le commandant Gadel était devant, le capitaine Lefebvre le suivait, et lui était suivi du sultan du Damagaram, et les autres soldats de peau rouge les suivaient. Ils sont arrivés à destination, ils ont formé un cercle. On a ordonné de s'asseoir et de faire le silence. Une prison était déjà construite à la capitale. Ils sont montés sur le toit de la prison. Il y avait Al-Hajj l'interprète, Ibrahim. Lui qui disait qu'il allait à la Mecque, Ibrahim. Il était en réalité un envoyé de blanc. C'est un chercheur d'informations, un agent de renseignement. Il voulait de l'aide pour aller à la Mecque, disait-il. Et le voilà avec une cape burnous en train de se camoufler derrière l'assistance. Toute honte bue, avec sa tête couverte. Lui qui voulait de l'aide pour se rendre à la Mecque, oui.
Il n'a pas été?
Il n'est pas parti à la Mecque, il n'est pas parti. Je te dis que c'est pour chercher les informations avec comme couverture qu'il a besoin d'aide pour se rendre à la Mecque. Tu vois la maison de Manzo à l'ouest là, qui avait servi de prison? C'est là-bas qu'il fut hébergé, car il voulait partir à la Mecque. Il a demandé de l'aide parce qu'il voulait faire le Hajj. Or, c'est un informateur. Et le voilà en train de se faufiler en public avec sa cape burnous. Ils sont montés sur l'estrade, à l'où l'interprète est monté. Tu sais, lui aussi a été arrêté parce qu'il n'a pas traduit le fameux cri de guerre. Si tu me dis de trancher ce mécréant, je le ferai. Si tu me dis de trancher ce mécréant, je le ferai. Il n'avait pas traduit. Il avait traduit que c'était une plaisanterie. C'était la cause de son arrestation. Il n'a pas dit la vérité.
Dans Dans la voix du grand comédien nigérien Nuhu Hwalam, vous écoutez le récit de l'arrestation du sultan du Damagaram et de sa cour. Nous sommes à Zinder, à la toute fin du 19e siècle, et plus rien ne sera jamais comme avant.
Et ils sont montés sur le toit et ont été obligés de former un cercle quadrillé par des soldats de la capitale. Ils ont ordonné à tous les chefs de s'asseoir au milieu. Venez tous vous asseoir par terre. Et tous les chefs se sont assis sur le sol. À commencer par le sultan du Damagaram, suivi des autres dirigeants. Et les autres sont montés. Mais Alhaji ne parle pas. Soukou. Aliou parla le premier en disant « Sultan du Damagaram, sultan du Damagaram, ton travail est foutu, ton travail est foutu. » 12 soldats l'encerclent et l'embarquent. Après qu'on a appelé le sultan du Damagaram, ce fut le tour de Mamadou, fils de Chétima. « Ton travail est foutu. » 4 soldats l'amenèrent aussi. « Malangapto, ton travail est foutu. » »« Shérif Fadil, ton travail est foutu. » Ils étaient 18 à être arrêtés. On avait l'impression que Birni allait exploser. On entendait les pleurs de tous les côtés. On leur ordonna de se taire. Et ce fut le tour de Malanyaro. « Malanyaro, ton travail est foutu. » Ils sont partis avec lui aussi. 4 soldats sont partis avec lui. Les pleurs se sont fait entendre de plus belle. On somma tout le monde de se taire. Taisez-vous, on ne veut rien entendre. Le commandant Gadel est arrivé. Le commandant a arrêté les malhonnêtes. Ils ont été arrêtés pour ne pas empoisonner le monde. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Si on les laisse parmi vous, ils vont empoisonner votre monde. C'est pour vous informer. Réjouissez-vous. Mais qui pouvait se réjouir? Arrêter le sultan du Damagaram et toutes ses notabilités? Ah non. Et il continue de plus belle en disant aux populations du Damagaram, réjouissez-vous de l'arrestation des malhonnêtes. Réjouissez-vous de l'arrestation des malhonnêtes du monde. Nous avons attrapé des malhonnêtes et les voici entre nos mains. Si on les laisse parmi vous, ils vont vous empoisonner la vie. Réjouissez-vous de cela. Mais qui va s'en réjouir? Personne. Que des pleurs seulement.
Qui va se réjouir d'un pays arrivé à son crépuscule, pour reprendre le titre de votre livre, Camille Lefebvre, des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara Sahel. Chez Fayard, c'est un livre très important, c'est un livre qui donne à entendre, comme nous le faisons dans la Marche du Monde, les différentes voix qui racontent depuis le Niger, ce moment du début de la colonisation française. Quelle est la morale de cette histoire, Camille Lefebvre? Parce que les Français occupent par la force le sultanat, ils mettent en œuvre les débuts de la colonisation, ils mettent en œuvre un nouvel ordre social, car vous l'avez bien précisé, ils sont de toute façon très peu nombreux, donc il va falloir développer quelques stratégies pour pouvoir prendre le pouvoir.
Comme on l'a vu, ils ont utilisé ce complot et ces inimitiés à l'intérieur de la cour pour mettre à bas le sultanat du Damagaram. Ils ont utilisé l'excuse d'un faux complot qui avait été fabriqué par le Belama pour arrêter le sultan, mais arrêter aussi tous les savants qui étaient autour de lui dans sa cour, tous les lettrés.
Alors parlons des lettrés, justement, qui ont laissé des archives extraordinaires en langue arabe. Comment ça se passait à l'époque? Qui maîtrisait justement l'arabe littéraire que vous devez décrypter aujourd'hui dans ces archives, parce qu'ils ont aussi leur point de vue sur cette histoire?
Il y avait donc à la cour du Damagaram un certain nombre de lettrés musulmans qui sont des savants à la fois en sciences coraniques, mais qui sont aussi des juges en général qui traitent des affaires judiciaires dans la région. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des gens dont certaines familles existent encore aujourd'hui. La famille Chétima, qu'on a entendu dans le son, est une famille qui est toujours une famille lettrée avec laquelle nous avons travaillé avec mon collègue Ari Awagana, qui est un linguiste spécialiste du Haoussa et qui possède toute une collection de manuscrits et encore aujourd'hui toute une génération de gens qui travaillent sur ces documents. Donc ce sont à la fois des gens qui réfléchissent aux sciences coraniques, mais aussi des gens qui écrivent sur le monde dans lequel ils vivent, à la fois par des lettres, mais aussi par des épîtres ou des textes. Et donc on a dans cette culture écrite en langue arabe dans la région des versions de cette cette histoire écrite sur place.
Donc les Français ont arrêté le sultan qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes mis en place, après avoir tué le sultan qui était en place lorsqu'ils sont arrivés. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre le pouvoir. Nous sommes au tout début du XXe siècle, à Zinder. Ils sont neutralisés finalement, hein. Le sultan, sa cour sont neutralisés. Sur qui les Français vont-ils s'appuyer? Est-ce que, par exemple, ils vont pouvoir s'appuyer sur certains lettrés dont on vient de parler?
Alors, ce qui va se passer est assez fascinant parce qu'ils vont donc abolir le sultanat et ils vont choisir ou ne pas choisir, puisque ça va se faire un peu comme ça, de s'appuyer sur le Belama, sur le fameux eunuque du sultan qui est devenu si puissant. Et celui-ci va devenir en quelque sorte le sultan sans titre, calife à la place du calife. Il prend la place du sultan, même s'il n'en aura jamais le titre. Et pendant un peu moins de 20 ans, il va assurer les fonctions de sultan sans en avoir le titre.
Mais est-ce qu'il va être aux ordres des Français? Est-ce que c'est une sorte de gouverneur colonial avant l'heure?
C'est toujours plus compliqué que ça. Les Français, les colonisateurs, ne maîtrisent jamais tout. Les jeux locaux sont toujours très forts et il reste toujours des marges de manœuvre pour notamment ces élites locales, qu'elles soient d'origine servile ou pas. Il y a toujours des moyens, les Français comprennent si peu de choses et sont si peu nombreux qu'il y a toujours des manières de les guider dans un sens ou dans un autre. Ce qui ne veut pas dire que la colonisation n'est pas d'une extrême violence et que la domination coloniale n'a pas aussi profondément transformé les sociétés.
Alors je repose ma question autrement, je suis tenace. Sur qui ces Français vont s'appuyer pour pouvoir quand même étendre leur pouvoir sur un territoire extrêmement vaste, hein, qui est celui du Niger?
Ce qui va se passer, c'est que les Français vont s'allier d'une part avec les lettrés musulmans, dont une partie vont choisir le camp des Français, avec notamment l'influence grandissante de la Tidjaniya qui va prôner l'accommodement avec la France, dans une perspective qui n'est pas une perspective d'acceptation de la colonisation, mais dans l'idée que Dieu a voulu les choses ainsi et qu'il faut attendre ce moment, laisser passer en quelque sorte la pluie et qu'on verra ensuite ce qui se passe.
Et beaucoup de Français à l'époque parlent l'arabe, peuvent l'écrire, et c'est une compétence, un savoir qui s'est complètement délité au fil du temps.
Tout à fait. Et ces Français ont aussi tendance à utiliser l'islam comme outil de colonisation. Ils vont par exemple aussi, eux-mêmes, les officiers, les militaires français, produire un discours en langue arabe, produire un discours au nom d'Allah, disant que c'est Allah qui a voulu la colonisation française. Et donc, si ils vont s'allier avec ces lettrés, c'est aussi parce qu'ils sont allés sur leur terrain et qu'ils ont produit un discours sur cette question de l'islam.
Alors reste la question de l'esclavage central, hein, dans l'ancien sultanat. Voici comment l'évoque notre commerçant préféré, Mahamane Kané.
Le marché de l'hyène et de la chèvre, ça n'était fini pour ce marché. Marché de l'hyène et de la chèvre, c'était l'ancien marché avant celui de Dolé, le marché Dolé. Il se remplissait de monde plus que l'actuel marché. Le marché de l'hyène et de la chèvre. Et tu sais bien qu'entre l'hyène et la chèvre, il n'y a pas d'entente. Et à chaque fois, l'hyène mange la chèvre. Comme ce sont les membres de la cour, les Saraki, c'est-à-dire les princes, c'est leur marché. Et les chèvres, ce sont les pauvres, quoi. Chacun se servait et ce jour fut fatal après que la tête fut plantée. Et ce fut la fermeture à tout jamais de ce marché. Voilà l'origine de l'arrestation du sultan. Après 15 jours environ, les militaires furent leur entrée dans la ville et trouvèrent des personnes alignées le long du marché. Une rangée de femmes et une autre pour des hommes à vendre. On leur dit « Levez-vous! Levez-vous vous tous! Il n'y a plus de servitude! » Bitibitewa, bitibitewa, qui signifie liberté, égalité. Il n'y a plus de servitude, c'est fini. Celui qui veut manger ou celui qui veut rentrer chez lui peut partir. Si tu veux rester chez ton maître, tu restes. Et si tu veux partir, tu pars.
En colonisant Zinder et le Damagaram, les Français désorganisent toute une société dans le commerce et l'organisation repose à l'époque sur l'esclavage. Camille Lefebvre, alors qu'en est-il réellement de l'abolition de l'esclavage qui est quand même annoncée par ces militaires français?
On va avoir une abolition dans les mots. C'est-à-dire qu'on va proclamer l'abolition, comme on l'entend dans cette archive, mais la réalité qui va rapidement prendre le dessus dans cette région, et plus largement dans le Sahel et dans le Sahara, c'est que les militaires français et les colonisateurs vont rapidement considérer que ces sociétés ne sont pas capables de dépasser l'esclavage. Et donc, bien que l'esclavage a été aboli, on va continuer à le laisser se pratiquer dans ces régions-là. Et finalement, au contraire de l'abolir comme ils l'ont proclamé dans les mots, ils vont s'allier avec ce qu'ils appellent les chefs locaux, avec la Sahraouta notamment dans les régions Haoussa, et ils vont au contraire maintenir les hiérarchies existantes avec d'un côté ce qu'on pourrait appeler des nobles et de l'autre une population de gens du commun, mais aussi une grande population servile qui ne va jamais être totalement libérée dans le contexte de la colonisation.
Est-ce que ces choix justement de laisser perdurer ce commerce de l'esclavage et cette organisation sociale, hein, puisqu'il faut rappeler que certains esclaves ont beaucoup de pouvoir, certains étaient des esclaves de cour, hein, donc ça, ils portaient bien leur nom, ils avaient du pouvoir et de l'argent, tout en étant encore des meubles du point de vue du droit, puisqu'ils appartenaient comme un meuble au sultan, mais il y a toute cette complexité hein, du statut de l'esclave dans cette société de Zinder. Donc est-ce que c'est aussi pour installer leur pouvoir, puisqu'ils sont très très peu nombreux, que les Français composent en quelque sorte avec l'esclavage, puisque c'est assez central dans cette société de Zinder.
Ils ont clairement besoin d'alliés parce qu'ils sont extrêmement peu nombreux. Hein. La domination coloniale est une domination qui reste toujours une domination en très faible nombre, qui se fonde à la fois sur le fait de posséder un armement supérieur, mais qui va se fonder aussi sur des alliances, notamment avec certains chefs locaux, avec certains lettrés. Il y a évidemment d'autres personnes qui font le choix inverse hein, de la résistance, mais on a aussi une partie des gens qui font le choix de s'allier avec les Français. Et cette alliance-là, entre les élites des régions sahéliennes et avec les militaires français, dont pour certains qui ont un ethos assez aristocratique et qui croient eux-mêmes à une société hiérarchisée et inégalitaire.
Là, vous parlez des aristocrates de l'armée française.
De l'armée française, tout à fait. On voit dans un certain nombre de récits certains officiers qui vont s'adresser directement à Amadou Ampeteba, par exemple, le raconte en lui disant un officier lui dit toi, tu appartiens à la noblesse de ton pays, comme moi, j'appartiens à la noblesse de mon pays.
Donc,
allions-nous
parler.
Pour gérer les choses correctement.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette incompréhension dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les Français à s'intéresser au fond, à la société qui est devant eux, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'ailleurs au tout début pour cartographier, ils cartographient autour du fleuve Niger comme s'il n'y avait ni hommes, ni animaux, ni patrimoine. Est-ce que cette difficulté des Français à comprendre à qui ils ont affaire, vous semble avoir perduré en ce qui concerne, par exemple, toute la présence militaire française au fil du XXe siècle et du XXIe siècle, puisque les OPEX, c'est pas fini.
Alors, c'est un point très important. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France, et pour une partie seulement, hein, des gens, des Français qui sont sur les terrains africains, on manque parfois d'intérêt pour ces sociétés, c'est-à-dire on a tendance à les considérer de manière essentialisée, à les penser comme des touts, et à ne pas s'intéresser à la finesse, à la complexité, à l'intelligence de ces sociétés, notamment en en parlant les langues, en en comprenant l'histoire, en écoutant aussi les récits que ces sociétés ont produits sur elles-mêmes. Et ça, je pense que nous pouvons globalement progresser sur ce point et aller vers une meilleure compréhension de cette culture et de ces sociétés saharo-sahéliennes qui sont vraiment extrêmement riches.
Et votre livre Des pays au Crépuscule est un formidable mode d'emploi, Camille Lefebvre, si on veut s'intéresser à l'histoire des Africains, parce que c'est aussi notre histoire, c'est une histoire commune, et vous le rappelez dans votre introduction, Des pays au Crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara Sahel, c'est aussi édition Fayard. Merci Camille Lefebvre.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour ces merveilleuses archives, et un grand merci au comédien Nourou Wallam. Respect pour lui, il nous a fait l'honneur d'accepter d'interpréter le récit du commerçant Maman Kané. Ainsi s'achève Zinder à l'aube de l'occupation coloniale, un épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et réalisé par Michael Goncalves. N'hésitez pas à nous écrire marche.monde@rfi.fr et à vous exprimer sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Exprimez-vous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre. Thank you.